frère, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange et de partage. Le parc des Virunga comptabilise 175 éco-gardes tués à ce jour. Dans un communiqué publié la semaine dernière, les directeurs du parc des Virunga déclarent que ce bilan s'est alourdi après l'attaque contre un véhicule du parc des Virunga le lundi 9 avril dernier qui a causé la mort des 5 gardes et d'un chauffeur sur l'axe routier Nyakakoma, Ichacha, en territoire des Rutshuru. Cette affaire relance une fois encore les débats sur la protection des gardes-parcs de cette aire protégée qui est classée sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081 890 49 69 098 06 49 69 pour vos interventions en direct. Le débat, c'est aussi sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Nico Kalambay est à la réalisation de ce magazine coordonné par Jérôme Lungembo et mise en onde par héritier Sidiakala. Pierrot et la main, je vous les présente sous la supervision de Martin Sebougiangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
La problématique de la protection du parc des Virunga, mais aussi des gardes-parcs qui sont victimes des attaques, comme on l'a vu, et on l'a dit tout à l'heure en introduction, c'est au centre de notre échange dans Parole aux auditeurs. Vous êtes nombreux à vouloir commenter ces sujets sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs, mais aussi en direct dans vos milieux et là où vous êtes. La question est au centre de notre échange. Et nous avons associé à cet échange Touvert Ondi, coordonnateur du réseau des journalistes chargés des questions de l'environnement en RDC. Confrère Touvert Ondi, merci d'être avec nous en direct. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Et la problématique de la protection du parc, mais aussi des gardes-parcs, je crois que c'est une question qui préoccupe l'ensemble de la communauté en dehors. Bien sûr, on peut dire que ça concerne l'ensemble de la communauté.
Effectivement, là, c'est une problématique qui est transversale. Lorsque nous voyons aujourd'hui la différence entre les temps anciens et les temps modernes dans ce que nous appelons les changements climatiques, le rôle des espaces protégés dans le cadre de la protection de notre futur, eh bien cette question doit toucher tout le monde, spécialement pour la République démocratique du Congo, le parc national de Virunga, le plus vieux parc d'Afrique. Rappelez-vous, il a été créé en 1925 après le Yellowstone National Park. Aujourd'hui, le parc national de Virunga, qui est un site du patrimoine mondial de l'humanité, bien que placé depuis 1979 sur la liste du patrimoine mondial en péril, est un des grands endroits dans la province du Nord Kivu qui donne aujourd'hui, en tout cas, une image vers le développement, s'il est bien protégé, mais aussi qui inquiète dans la façon où cet espace qui couvre les 13% de la superficie du Nord Kivu est en train d'être insécurisé davantage. Pour ceux qui ne savent pas, pour aller par exemple à Butembo ou à Beni, à Kitangoma, on est obligatoirement obligé de passer par le parc. Donc si tout le monde qui fait la route est dans une insécurité totale de ne pas arriver à destination, c'est que ça doit vraiment interpeller plus d'une personne. Malheureusement, nous sommes en train de soumettre une baisse de la tension vers la protection de ces parcs en commençant à enregistrer des morts parmi les éco-gardes, ceux qui sont censés protéger ces parcs. Je pense que c'est une question qui intéresse plusieurs personnes, elle est transversale, elle est aussi vitale pour la province du Nord Kivu qui espère avoir beaucoup de revenus provenance de ces parcs.
Alors, on sait que la zone connaît de turbulences sur le plan de la sécurité. Pensez-vous aujourd'hui que la sécurité doit-elle être assurée uniquement par des éco-gardes qui, eux-mêmes, sont victimes des attaques de ces personnes?
Ben, nous devons entrer dans la loi. La loi numéro 14-003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature en RDC, dans son paragraphe 2 et le paragraphe 2 du chapitre 4 de cette loi, si nous pouvons bien la comprendre, l'article 40 dit que l'État, la province et l'entité territoriale décentralisée veille à la sécurité des aires protégées et du personnel affecté à leur surveillance. Lorsque nous voyons l'article 41 de cette loi, on dit que la surveillance des aires protégées est assurée par un personnel exclusivement national, appuyé s'il le souhaite, par des éléments de la police nationale et des forces armées, sans préjudice des dispositions de l'article 36 de la loi, la sous-traitance est prohibée. L'article 42 de cette loi dit que le personnel affecté à la surveillance des aires protégées est apolitique et bénéficie en période de paix ou de conflit armé d'un statut de non-belligérance. Donc, je ne vois pas aujourd'hui cette disposition légalienne mise en pratique dans les parcs de Jurunga. On s'inquiète. Dans moins de 10 ans, 175 éco-gardes tués, dans moins de 10 ans, ça veut dire qu'il y a une alarme qui doit être lancée sur le plan international et même sur le plan national pour voir d'abord au niveau national est-ce qu'on est en train de tenir en compte de la valeur du personnel qui est commis à la surveillance de ces parcs. J'ai souvent dit, Thierry, dans mes différents cours que j'enseigne dans différentes universités, même dans les institutions supérieures de la place, que la question de la protection du parc national ne doit pas être laissée uniquement à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui n'a que peu d'arguments juridiques pour protéger l'ensemble des superficies que cet institut congolais est en train de protéger actuellement. Donc, on doit revisiter le rôle de tous les partenaires, en commençant par l'État congolais, la province, et même les différents territoires, quels sont leurs apports pour que les gardes-parcs qui sont aussi à nombre réduit au regard de contingences financières, même au regard de leurs missions, puissent jouer leur rôle
à ce qu'il faut.
La justice aux Congolais, leur richesse est protégée dans ces parcs.
Voilà. On va revenir à vous le temps d'écouter les auditeurs qui sont nombreux, qui voudraient bien intervenir. Vous l'avez dit, c'est une question transversale. Faudrait-il aujourd'hui qu'elle soit seulement qu'elle soit gérée par l'ISSN seule? Vous estimez que non, il faudrait aller un peu plus loin. Pourquoi pas aussi une implication internationale, parce que c'est ces parcs qui est classé patrimoine mondial, un patrimoine qui appartient à l'humanité. Faudrait-il passer à la sécurisation du parc sur le plan de la conception régionale et internationale? Élie, vous êtes en Bandaka, merci de nous avoir rejoint. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, messieurs les journalistes. Je salue l'invité qui est maintenant au studio de la Radio Capi en ligne. En tout cas, ma préoccupation ici, sur laquelle je vais m'appuyer, est celle de pouvoir intervenir dans le sens que les parcs de Virunga, en tout cas, qui est placé dans une entité de tension par les forces armées rebelles, dans le sens où ce parc national est situé dans des frontières entre Rwanda et Ouganda. Aujourd'hui, ce sont les deux pays frontaliers qui nous attaquent chaque fois parce que la plupart des rebelles, la plupart des groupes armés qui proviennent de ces deux pays, Rwanda et Ouganda, et cherchent à se transformer des artisanaux et des exploitants miniers dans notre forêt, en tout cas dans ces parcs qui est entre nos deux frontières. Et c'est pour cette raison que je dis, lorsque vous voyez qu'il y a trop de désordre dans ces parcs de Virunga, c'est parce que la plupart des groupes armés émanent du Rwanda et Ouganda, parce que les FDLR, aussi bien les ADF, ce sont les populations rwandaises et ougandaises qui sont venues, qui sont quittées leur pays, toutes ces populations, elles sont venues habiter notre pays, non seulement pour chercher l'exil, mais plutôt pour s'approprier de nos ressources forestières, de nos ressources de sous-sol, tout comme des ressources de faune et de flore. Et c'est ça, dans ce sens que j'ai dit, l'ISSN et soit l'UNESCO doivent en tout cas mettre en place certaines mesures pour la sécurisation des gardes-parcs. Parce qu'on ne peut pas estimer voir des groupes rebelles, des milices rwandais Ougandais venir exploiter nos forêts, exploiter nos parcs. En tout cas, on doit faire tout pour relever ce genre de défis. Pourquoi j'ai dit ça? Vous allez vite comprendre que le parc de Virunga est composé de beaucoup de ressources. Nous avons beaucoup de minéraux, de faune et de flore. Et en tout cas, le Rwanda a usé de toute force ensemble avec le Ouganda pour chercher à exploiter illicitement nos ressources, ce qui n'est pas de faire. Même lorsque vous lisez l'ordonnance de loi portant protection, sécurisation des ressources naturelles et des parcs nationaux, on a mis en place certaines mesures pour que n'importe qui ne puisse pas entrer dans les parcs pour exploiter. Et en tout cas, vraiment, ce que moi je vais regretter, avait déjà imposé.
Alors, si on vous suit très bien, si on vous suit très bien, vous posez là la question de l'activisme des groupes armés dans les parcs, que ce soit les groupes armés étrangers, les groupes armés locaux. Alors, comme je disais tout à l'heure que le parc, c'est un patrimoine qui appartient à l'humanité, faudrait-il aujourd'hui des discussions au niveau de la sous-région pour voir comment est-ce que la protection peut être assurée dans un contexte international. Merci beaucoup, Elie, de nous avoir appelé de Mbandaka. Dieudonné, vous êtes à Mahagi. Bonjour, Dieudonné.
Bonjour, Pierrot. Bonjour à l'invité.
On vous écoute, Dieudonné.
Merci pour l'opportunité. En fait, à mon avis, l'essentiel n'est pas de comptabiliser au stade actuel la mort, mais plutôt de prendre une disposition pratique, soit par des contre-attaques, pour bien sécuriser la zone et aussi la population locale. Car la vie humaine est sacrée, et cela n'est pas secret. Aujourd'hui, que ceux qui égorgent, ceux qui tuent, ceux qui violent, ceux qui kidnappent nos mères, nos frères, nos sœurs, sont bien logés dans les parcs avec les familles sans être inquiétés, M. Perrot. Et ce qui est aussi très grave, et c'est ce qui ne se fait nulle part ailleurs. Et si vous visitez le National Park of Uganda, allez-y même au National Park of Kenya, vous verrez que nous sommes encore très haut, très loin. Aujourd'hui, visitez Garama, visitez la faune à Okapi, visitez Virunga, pour ne citer que ça, vous saurez que la tuerie, c'est chaque jour, et surtout la tuerie de la population locale. Donc, c'est une solution, à mon avis, prime d'abord. C'est humanitaire, l'humanité qui est en charge même de sécuriser les parcs doit d'abord maintenir une cohabitation suivie d'un dialogue permanent avec les autochtones afin d'éviter la complicité locale. Et c'est pour nous, M. Perrot, de procéder à un véritable recrutement de nouvelles unités en vue d'une formation digne de son nom, pour bien peut-être parvenir à riposter, parce qu'on comprend aussi que ceux qui sont là sont presque à des effectifs presque minimes, selon ma connaissance, parce que j'ai eu le temps de visiter quelques parcs de la République démocratique du Congo. Et troisièmement, M. Perrot, avoir un appui logistique solide des hautes technologies, suivi aussi de la motivation des personnels, parce que les parcs congolais détient plus de richesses, entre autres l'or, le diamant, des ivoires et consorts, et c'est ce qui attire ces malfrats, ce qui attire, parce que ceux qui sont logés au niveau des parcs, M. Piron, ils font des business, mais on est en train de finir. Et aussi, si ces gens, ceux qui sont censés utiliser les parcs, ils ne sont pas bien bien organisés, équipés, motivés, consorts, mais on doit toujours continuer à des histoires pareilles, et c'est ce qui est grave. Je dis encore, si réellement on a besoin de sauver l'humanité, on a besoin de préconiser les tueries, parce que tous nos parcs nationaux détiennent des groupes armés, détiennent des
blacks. Alors, ça dit qu'à ce niveau, Dieudonné, vous estimez que... Voilà, Dieudonné, merci. Vous estimez, Dieudonné, qu'il faut des mesures assez costauds, importantes, la cohabitation, le dialogue avec les autochtones pour qu'il n'y ait pas de questions de complicité avec des groupes armés, de ceux qui viennent exploiter, mais aussi à savoir identifier qui sont ces populations autochtones ou riveraines qui exploitent, par exemple, qui survivent à cause de parcs. Il faudrait un recrutement et une formation des gardes parcs, leur donner des moyens logistiques conséquents, ainsi que leur permettre de travailler dans des conditions meilleures, pas seulement pour les parcs des Virunga, mais pour l'ensemble de nos espaces et aires protégés. Merci beaucoup, Dieudonné. Christian, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Kati.
Mmh. On vous écoute, Christian.
Oui, ok, merci d'avoir de m'avoir accordé la parole. Le sujet en question, c'est vraiment un sujet très important, puisque ça a trait à la sécurité de la partie du pays. Moi, à mon avis, je pense que si l'État usait de son droit de mettre en place certains dispositifs pour la sécurité de toute l'étendue, là, les parcs et consorts, ça serait mieux. Puisque, à mon humble avis, je vois que les gens sont négligés. Le gouvernement ne fait pas vraiment son travail. Et la police et consorts, leur rôle, c'est de sécuriser la population, de sécuriser les gens. Mais ce n'est pas ce qui se fait actuellement. Il y a un grand désordre. Il y a des tueries et puis on est en train d'arrêter les gens comme il faut. On tue certaines personnes comme il se doit. Mais la police est là, le gouvernement entend tout cela. Qu'est-ce que le gouvernement aussi est en train de faire sur ce que notre gouvernement il a son droit d'intervenir, de constater quand même que non, on a un gouvernement en place qui travaille vraiment. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un bilan là de certains gardiens qu'on a tués au parc. Mais c'est vraiment triste. Pourquoi? En tout cas, il faut que ça, c'est un apanage du gouvernement central, qui puisse prendre les choses au sérieux, qui mette en place un dispositif là de sécurité dans cette partie du pays-là. C'est vraiment un problème capital pour lequel le gouvernement ne peut pas croiser les bras. Il faut vraiment un suivi et puis renforcer les mesures sécuritaires dans cette partie du pays-là.
Merci. Merci beaucoup, Christian. Pour vous, c'est une question de responsabilité de l'État, le rôle des services de sécurité pour pouvoir appuyer même le garde-parc et arriver vraiment à assurer la sécurité. Merci beaucoup. Nous revenons à vous, Touver Oundi. Vous avez suivi nos compatriotes qui sont revenus sur la responsabilité de l'État, sur le mécanisme qui doit être pris dans le cadre aussi de la sous-région avec d'autres pays qui font les limites avec le parc. Voilà toutes ces questions. Mais est-ce que vous qui évoluez dans ces domaines de protection de l'environnement, pensez-vous aujourd'hui qu'il y a des discussions très engagées, de réflexions très engagées, que ce soit au niveau de la RDC ou bien dans la sous-région ou avec l'ensemble de partenaires pour arriver vraiment à assurer la sécurité de cet espace Touver Oundi?
Oui, je dois comprendre avec Marie même l'idée de tous les trois intervenants par rapport au souci de voir plus d'efforts du gouvernement. Maintenant, nous ne devons pas passer inaperçus les efforts qui sont déjà fournis par le gouvernement et de la République démocratique du Congo, et même au niveau régional. À titre d'information pour ceux qui ne le savent pas, le gouvernement de la RDC, le gouvernement rwandais et le gouvernement ougandais travaillent dans une organisation qu'on appelle la collaboration transfrontalière dans les droits Virunga, dit ici en sigle, afin de sécuriser davantage les aires protégées de ces massifs-là. Il y a le massif de Virunga qui comprend le parc national des Virunga au Congo, le parc national des volcans au Rwanda et 7 autres parcs transfrontaliers au niveau de l'Ouganda, notamment la Semliki, le Mbarinda, le Queen Elizabeth, et ainsi de suite. Donc, il y a un mécanisme régional qui est très efficace actuellement, qui permet à ce que la surveillance des frontières entre les aires protégées soit assurée par les éco-gardes, les gardes-parcs qui font leur travail. Aussi, cela est né du fait que déjà en 2005, il y avait une famille des Douaris du Congo qui avait traversé le Rwanda sans demander de passeport. Cette famille est protégée entièrement par le Rwandais et les Rwandais apportent les 50% des bénéfices du tourisme de cette famille-là à République démocratique du Congo à travers ce mécanisme qui existe depuis la GDPC d'ailleurs. Il y aura une réunion le 24 avril prochain à Rwenzori au Rwanda afin d'étudier encore une fois les différents défis actuels de ces parcs transfrontaliers qui sera très important. Et dans cette réunion-là, le gouvernement provincial, le gouvernement national et les gardiens de l'ICSN seront là pour essayer de donner les grands défis. Parlant donc de ces efforts, nous faisons des efforts à encourager. À côté de ça, là, la RDC a abrité il y a 2 ou 3 ans la grande réunion à Kinshasa qui a permis qu'on puisse signer le traité de collaboration transfrontalière. Donc ce traité doit être bientôt transmis au Parlement pour que les parlements Congolais accepte la ratification de ces traités dans le cadre de la gestion toujours de ces écosystèmes. Rappelez-vous que le fait que notre parc national de Virunga soit ainsi du patrimoine mondial de l'humanité, il y a donc une vision, il y a une vision internationale sur la protection du personnel et des richesses de ce parc, y compris les communautés locales. Je suis vu Élie en train de parler de l'association aux communautés locales. Aujourd'hui, ce parc est l'un des endroits au monde où les revenus issus du tourisme sont partagés de l'ordre de 30% en brut vers les activités des communautés locales pour leur développement, afin de montrer l'importance de cet espace dans la région. Donc, au moins, des efforts sont fournis à ce niveau-là, mais en outre, Pierrot, rappelez-vous que le décret, il y a un décret qui a été signé par le décret numéro 015/012 du 15 juin 2015 portant création d'un corps chargé de la sécurisation des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées en RDC. Ce décret signé par le Premier ministre à l'époque, donc Matata Mponyo, donne l'opportunité à avoir une brigade particulière qui doit sortir au sein de l'armée congolaise, l'armée nationale, les FARDC, appuyée par l'Institut congolais pour la conservation de la nature,
oui,
afin de faire face aux grands problèmes de sécurité, comme les problèmes des groupes armés étrangers. Ces groupes armés ne peuvent pas être contenus par les seuls éco-gardes. Les éco-gardes ont une mission défensive et n'ont pas une mission défensive. Donc si ce décret du numéro 15/012 est mis en pratique ou exécuté, nous espérons que la question liée à la présence des FDLR, des ADF et autres groupes étrangers fortement armés dans les parcs devra être rapidement élaguée.
Merci.
D'ailleurs, les organisations locales de la société civile des domaines de l'environnement ont écrit récemment au Premier ministre Bruno Tshibala, lui rappelant l'obligation de la mise en marche ou de la mise en pratique, parce qu'on dit que ce décret entre en vigueur
après
cette signature. Depuis le 15 juin 2015, on n'a pas encore vu ce décret entrer en pratique. Donc ce sont des efforts qui sont fournis dans ce sens-là afin que les parcs puissent jouer son vrai rôle et les communautés retrouver leur intérêt.
Merci.
À côté de ces parcs nationaux.
Voilà. On va revenir à vous. Il y a plein d'auditeurs. Hein. Vous êtes nombreux, bien sûr, à vouloir commenter ces sujets. Singhi, vous êtes à Kinshasa. Jean-Claude Jakindou, 081-890-4969. 081-890-4969. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Nous penchons sur la problématique de la sécurisation du parc de Virunga. Non seulement le parc, mais aussi les gardes-parcs, parce que dans moins de 10 ans, 175 éco-gardes ont été tués par des hommes et armée. Comment arriver à assurer la sécurité de cet espace qui appartient au patrimoine de l'humanité? 081-890-4969.
Journal des élections, un espace de diffusion d'informations liées au processus électoral en RDC. Agenda électoral, enrôlement des électeurs, rétrospective de la semaine et plus encore. Suivez ce magazine chaque vendredi dès 15h30 à 16h sur Radio Capi.
Singhi, vous nous avez rejoint ici à Kinshasa. Merci. Vous avez suivi les uns et les autres. Quel est votre point de vue? Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Merci à Radio Capi et à nos très chers auditeurs. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, la République démocratique du Congo a besoin d'argent. Pour augmenter le budget de l'État, je vous ai dit que le budget est essentiellement fiscal. Et la fiscalité, par définition, c'est la comptabilité et les droits. Les parcs font partie des sites générateurs des recettes. C'est-à-dire, il faut une attention particulière pour sa sécurité. Sécurité des parcs, y compris les personnes qui s'y travaillent. Mais nous avons limité des gardes rapprochés. Nous avons autant d'unités de sécurité, mais pourquoi les parcs souffrent de l'insécurité? Ce n'est pas les seuls endroits qui souffrent de l'insécurité, mais vous devez vous rappeler l'histoire. Vous rappelez qu'en 2007, les parcs ont été menacés pour l'exploitation du pétrole. C'est la raison pour laquelle l'UNESCO a crié aux efforts, le monde entier a dû protéger cet endroit. En 2009, avec les projets SICO, ils sont revenus, traduisant les projets d'exploitation pétrole en gestion des eaux. Ce qui a abouti aujourd'hui à ce que vous appelez canal pour transférer les eaux vers le Tchad. Toujours, il n'y a pas longtemps ici, lorsque Nikki Haley, l'ambassadeur des États-Unis, est arrivé, il a commencé par où? Mais c'est dans ce coin-là qu'il a commencé sa visite, alors que c'était une visite pour qu'il se rende à Kinshasa ici, rencontrer les autorités politiques. Mais lui, il a commencé d'abord de ce coin-là. C'était un voyage touristique qu'il a opéré, d'affaires, au même moment, voyage politique. C'est qu'aujourd'hui que nous sommes en train de connaître les incursions qui viennent dans ces parcs-là. C'est toujours un problème d'exploitation du pétrole qui est dans ces coins-là. Mais on présente autre chose. Il faut à tout prix sécuriser cet endroit-là parce que de l'autre côté, ils nous accusent de faiblesse. Alors que nous ne sommes pas faibles. J'ai dit, faisons confiance à notre armée. Faisons confiance à nos services de sécurité. Faisons confiance à ceux qui gèrent. Et eux aussi doivent faire confiance à la population qui les fait confiance pour prendre conscience de ce qu'ils représentent pour l'État congolais. Nous avons trouvé ces parcs et nous devons les léguer à nos enfants. Mais comment gérer ces parcs? Est-ce que ça doit vraiment être un problème? Aujourd'hui, c'est connu que les parcs sont menacés. Pourquoi les parcs sont menacés? Il y a l'exploration. Il y a l'exploration qui se fait à l'intérieur. Total est venu faire l'exploration pour que demain qu'il fasse l'exploitation du pétrole. Mais ça ne souffre pas. Ça ne peut pas souffrir d'une information. C'est connu. Il faut sécuriser. Si on fait écarter, si nous voulons écarter tous ces gens-là, vous verrez que la paix va revenir dans ces parcs. On nous présente autre chose que ce qui se passe réellement dans ces sites-là.
Oui, mais quand on voit le groupe armé hein, qui sont tout autour, qui attaquent les convois, parce que notre invité l'a dit tout à l'heure que les parcs, c'est un passage obligé pour rejoindre certaines localités. Faudrait-il aujourd'hui engager des discussions sur le plan régional, parce qu'il l'a dit, entre le Rwanda et l'Ouganda, on l'a vu. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que si les parcs est ouvert à cette exploitation, c'est fini, les cas de l'insécurité va prendre fin?
Non. Je n'autorise pas l'exploitation du pétrole. Ni autre exploitation. C'est un parc touristique. Nous avons besoin de vivre avec ces gens-là, ces animaux-là, ces espèces de la nature. Nous devons les conserver. Mais tout ce que je veux, quelle que soit la grandeur du parc, quelle que soit les ressources qui s'y trouvent, mais la sécurité ne peut pas souffrir. Il y a toujours des mécanismes pour avoir la sécurité. Nous partageons avec d'autres pays. Mais parce que le pays voisin nous qualifie d'irresponsables, alors que nous ne le sommes pas. C'est pourquoi j'appelle la responsabilité de ceux qui dirigent.
Oui.
Ils doivent prendre conscience de ce que c'est chaque patrimoine de l'État. Aujourd'hui, vous êtes responsable. 20 ans passés, peut-être vous ne l'étiez pas. Donc, vous avez trouvé le pays, vous êtes content de représenter ce pays, vous êtes content de parler de ce pays, mais vous devez être conscient aussi de vos responsabilités. La sécurité des parcs.
Merci.
N'est pas un grand problème, n'est pas plus que les problèmes que nous avons connus il y a de cela 3, 4, 5 ans.
Voilà, la sécurité du parc n'est pas un grand problème, ingénieur Singhi, vous l'avez dit, c'est une question de conscience, il faut l'élargir, il ne faudrait pas seulement, comme vous l'avez dit, les laisser entre les mains des gardes-parcs, il y a la police, il y a l'armée, il faudrait des efforts conjoints, parce que c'est un patrimoine que nous devons aussi léguer aux générations futures. Merci beaucoup de votre point de vue ici à Kinshasa. Jean-Claude, vous êtes à Kindu, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour cher ami Piro et bonjour à Singhi qui vient d'intervenir et à tout le monde, aussi à l'invité.
On vous écoute.
Oui Piro, moi vraiment quand j'interviens à propos de ce sujet, j'ai des larmes aux yeux. Quand je vois comment d'autres pays se développent à partir du tourisme, comme le Kenya, l'île Maurice et j'en passe. Et quand je vois comment on est en train de badiner avec le tourisme ou avec certains de nos parcs, mais je perds même mon latin. Récemment ici, j'ai entendu à travers vos ondes, à travers le reportage de Dominique Colombi, qui avait un forum en Bandaka où on parlait des pachydermes. On faisait des statistiques à partir de 1980 et jusqu'au jour d'aujourd'hui, où nous sommes maintenant à 7000 individus. Mais finalement, on est où là? Moi, j'ai comme impression que nous sommes en face des dirigeants qui ne se soucient pas de l'évolution ou de la vie quotidienne de cette population. Imaginez-vous, nous avons certaines espèces dans notre pays, et ces espèces ne se trouvent nulle part ailleurs, nulle part au monde, Pierrot. Et quand on voit, on chante à la longueur des journées, on dit que parmi les révolutions, la révolution de modernité, parmi les cinq chantiers, on parle d'autres matières, alors que le tourisme, moi qui vous parle ici, Pierrot, je suis en train d'écrire un livre, moi je suis environnementaliste. Voilà pourquoi je vous dis, j'ai des larmes aux yeux quand je vois certaines espèces qui sont en voie d'extinction. La fois passée, c'était vous qui animiez une émission à propos de certains perroquets qui sont en voie d'extinction.
Mais c'est
nous au Maniema. Et quand nous voyons, depuis 1925, c'est parmi les sites les plus riches du monde. Et il y a un complot. Il y a un complot, une machination au niveau même de la communauté internationale. Sarkozy, quand il était arrivé à Kinshasa, au Congo-Brazzaville, vous savez qu'est-ce qu'il avait dit? Nous devons partager notre richesse avec certains de nos voisins. Partager comment? Et même Niki Alès, si il vient d'insister là-dessus, tout de suite là. Donc, c'est pour vous dire que si nous ne faisons pas garde, d'ici 1930, d'ici 1950, nous n'aurons rien, Pierrot. De toutes les façons, nous devons être sur nos gardes et nous devons nous prendre en charge pour au moins garder notre patrimoine et nos patrimoines, Pierrot.
Merci beaucoup Jean-Claude, c'est une question de responsabilité, une question de conscience nationale, parce que vous l'avez dit, si vous avez rappelé ces passages de l'ancien président français Nicolas Sarkozy au Parlement ici en RDC, où il avait évoqué le fait que l'Europe, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, a pu mettre ensemble les ressources communes, l'exploitation du charbon par exemple, pour permettre à ce que l'ensemble des pays en profitent. Mais pour vous, vous avez peur qu'il y ait un complot autour de ces ressources et que si jamais les Congolais ne se réveillent pour la protection de leur patrimoine, on ne pourra rien avoir d'ici 2030-2050. Et ingénieur Singhi, il insistait beaucoup sur le fait qu'on doit cette conscience de transmettre aux générations futures le patrimoine que nous avons maintenant. Et c'est pourquoi dans ces débats, nous essayons de partager ensemble pour savoir, faudrait-il aujourd'hui laisser la protection de ce parc seulement aux gardes-parcs quand eux-mêmes sont victimes des attaques des groupes armés? Il faudrait arriver à perfectionner leur travail comme a souhaité Dieudonné des Mahagi. Voilà autant de pistes et des solutions pour arriver vraiment à sécuriser ces patrimoines, tout en sachant que le tourisme lui-même, il est très très important pour le développement de beaucoup des nations. Merci beaucoup Jean-Claude. Je crois qu'il y a Étienne qui est à Guémena. Merci d'être avec nous, Étienne. Bonjour.
Oui, bonjour à toi, Capi. Bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute, Étienne.
Oui, merci monsieur le journaliste. Je pense que le problème des tueries à répétition des gardes-parcs pour prouve à suffisance que il y a un problème de sécurisation de ce parc, mais aussi il y a problème de moyens logistiques pour pouvoir aider les gardes-parcs à faire leur travail. Et de ce fait, je pense que les responsabilités sont partagées. Mais à cela, il y a aussi d'abord la responsabilité la plus grande est celui du gouvernement congolais, en fait, parce que c'est le gouvernement congolais qui devrait voir dans quelle mesure il pouvait sécuriser les parcs. Mais aussi, puisque il y a un problème qui se pose entre les trois pays, il y a la RDC, l'Ouganda et le Rwanda, et étant donné que le parc c'est le patrimoine international. Donc, je pense que l'UNESCO et la communauté internationale devraient chercher des mécanismes comment mettre sous pied une commission de sécurisation. Parce que chercher également à connaître quelles sont les causes de ces incursions et quelles sont les causes de ces tueries. Peut-être parce qu'il y a des minéraux dans le parc, ou soit parce qu'il y a des espèces des aires protégées, ou peut-être que ça rapatrie seulement à la RDC. Mais si on pouvait chercher à mettre sur pied un cadre, chercher à mettre sur pied une commission, se parler entre les trois pays et voir comment peut-être qu'on peut sécuriser d'une manière collégiale ce parc, je pense que les choses aideraient. Donc c'est à ce stade-là que je pense à y mettre mon point.
Merci beaucoup Étienne. Pour vous, la sécurisation du parc ne devait pas être seulement assurée par la RDC. L'UNESCO pourrait impliquer la communauté internationale pour voir comment est-ce que rendre cette question internationale en termes de sécurisation. Pourquoi pas aussi impliquer le Rwanda, l'Ouganda. Notre invité a expliqué qu'il y a des discussions, il y a un cadre de concertation où le pays se retrouve, mais la sécurité pour le moment assurée par les gardes-parcs. Il a parlé aussi d'un décret du Premier ministre pour voir comment est-ce qu'il faut arriver à rendre plus professionnel le travail de garde-parc. Est-ce qu'aujourd'hui l'ICSN a-t-il aujourd'hui les moyens conséquents, nécessaires, qui peuvent lui permettre d'assurer une sécurité maximum dans ses parcs? Voilà autant de questions sur lesquelles il faudrait s'épancher sérieusement pour trouver des solutions. Merci beaucoup Étienne Bintou, merci de nous avoir rejoint. Vous êtes à Kimpesse, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute Bintou.
Bon, disons que en plus de ce que les amis ont dit pour la responsabilité de l'État congolais, il n'est pas mal que nous puissions y insister que cela revient des missions régaliennes de l'État congolais de sécuriser son territoire et normalement de sécuriser aussi les parcs, puisque les parcs ne se trouvent pas qu'en République d'Amérique du Congo. Pourquoi dans d'autres pays où ces parcs-là passent, c'est bien sécurisé, il n'y a que chez nous où il y a des problèmes chaque fois. Donc nous devons, les gouvernements doivent prendre ses responsabilités afin de sécuriser les parcs. Ça, c'était la responsabilité, le premier problème. Le deuxième problème, c'est rassurer la communauté locale. Comment voulez-vous que les gens qui habitent tout autour des parcs soient l'objet, mais qui ne trouvent pas là où qu'ils vivaient, qui ne trouvent pas comment se ravitailler, et on protège les parcs seulement, et ces gens-là doivent chercher quoi manger, quoi se nourrir. Donc, il faut que la communauté internationale et la communauté nationale locale soient rassurées, pour que tous ces gens qui vivent autour du parc, qu'ils puissent aussi se retrouver. Vous ne pouvez pas vivre au-dessus de l'or, mais en train de mourir de faim. C'est vraiment impossible. Il faut que la communauté internationale qui met les moyens et l'État congolais qui veut que les parcs soient protégés, rassure aussi la communauté locale, qu'ils trouvent là où qu'ils se veulent, puisqu'ils n'ont pas d'autre choix. Mettre fin à l'insécurité qui se trouve dans les parcs, c'est associer aussi la communauté locale. Que la communauté locale, lorsqu'elle se retrouve, ces gens-là qui viennent tuer les gens, qui viennent faire des kidnappings, qui entrent dans la forêt, ce ne sont pas des gens qui viennent du ciel, ce sont des gens qui habitent avec cette communauté locale. Il faudrait que cette communauté locale soit rassurée et soit associée à tout ce qu'on est en train de faire. Puisque ce que vous faites pour notre intérêt, il faut le faire ensemble avec nous. Vous ne devez pas le faire seul. Si vous le faites seul, vous le faites contre nous. C'est pourquoi il faut vraiment qu'on puisse rassurer la communauté locale. Le parc n'est pas seulement un endroit où les gens peuvent aller cultiver ou faire autre chose, mais il y a aussi l'insécurité, le kidnapping. Ça commence aussi à produire l'argent, les parcs là, puisque quand on kidnappe une personne, on l'amène dans la forêt, et après on commence à exiger des rançons, et ces rançons-là, ça fait vivre encore les gens qui sont dans des brousses. À ce moment-là, si ça continue comme ça ne finira jamais. Il faudrait que l'État congolais puisse tout faire pour mettre fin d'abord à l'insécurité au niveau du parc, mettre fin aux histoires de kidnapping et faire tout à ce que les gens soient rassurés. Le troisième problème, les parcs nous servent de changement, donc c'est parmi les poumons économiques qui nous permet à ce que nous puissions, que le monde puisse respirer normalement. Aujourd'hui, le changement climatique est en train d'attaquer presque la planète Terre. Et si nous détruisons encore ces parcs-là aujourd'hui, voyez que ça sera difficile pour que les gens puissent vivre normalement. Ici à Kinshasa, où nous avons détruit presque l'ensemble des forêts qui nous entouraient, nous avons mis des bétons partout. Est-ce que les gens, on arrive à dormir, les gens ne dorment pas convenablement, surtout s'il n'y a pas du courant. Donc les parcs nous servent aussi à protéger l'humanité, il faut que nous puissions protéger cela, mais qu'on puisse tout faire, que la communauté tant nationale qu'internationale puisse faire en sorte que les parcs soient protégés et que la population locale soit rassurée pour qu'elle se retrouve aussi.
Merci beaucoup Bintou. C'est une question d'abord de considérer les relations entre l'État et les communautés locales qui vivent de ce parc. Notre invité a parlé tout à l'heure de ces communautés qui bénéficient des 30% sur les recettes touristiques, mais vous demandez qu'on aille un peu plus loin pour pouvoir, au niveau de la communauté internationale, voir comment mettre en place des mécanismes plus efficaces pour la protection de ce patrimoine. Merci beaucoup. On retourne ici à Kinshasa avec vous. Ingénieur Bangoyo, merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Bonjour, bonjour Pierrot.
On vous écoute.
Merci Pierrot pour m'avoir accordé la parole. Pierrot, moi je crois que cette affaire révolte quand même les gens. Bon, moi je crois que nous avons quand même un gouvernement. Et à ma connaissance, il y a quand même un ministre qui est en charge de l'environnement. Alors la question que je pose, quelle est la politique de l'actuel gouvernement en matière d'environnement? Parce qu'il faut qu'on sache d'abord quels sont les objectifs de ce gouvernement dans ce domaine. Quelle est la politique? Parce que nous, j'ai suivi un documentaire, je crois, dans une des chaînes, dont je ne veux pas citer le nom, mais quand j'ai vu le matériel avec lequel les gardiens de nos parcs, notamment celui de Virunga, utilisent pour garder cet environnement, je me suis dit, ça y est. Donc, des armes presque pour regarder, je ne sais pas si ça peut servir. Alors, je me dis ceci, à quoi sert alors un ministre de l'Environnement? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il touche l'argent du trésor. Pourquoi tout le temps, ce parc est toujours menacé? Et on tue, on viole là-bas, et le gouvernement est là, comme si de rien n'était. Alors, moi, je crois que et c'est dommage parce que au niveau du Parlement, nous avons les députés, parce qu'on ne peut pas utiliser des armes pour chaque fois revendiquer. Nous avons un Parlement qui doit, en fait, se prendre en charge. Mais il est regrettable, Pierrot, lorsque de telles situations se présentent, et au niveau du Parlement, il y a des compatriotes qui veulent bien comprendre ce qui se passe exactement. Et on va initier, par exemple, une action pour soit interpeller le ministre en charge de cette question-là. Eh bien, on voit des gens venir avec des motions pour empêcher que ce ministre vienne expliquer à la population ce qui se passe. C'est dommage. Alors, est-ce que nous pouvons conclure que le même gouvernement est en train d'encourager ce genre d'action, parce que moi je sais que le parc est venu là aussi et a été à un moment donné l'objet il y avait des études pour exploiter le pétrole. Est-ce que ce n'est pas ce désordre là qui est créé par le gouvernement?
Ça dit que vous estimez que non, il y a un désordre entretenu pour qu'on arrive à cette exploitation. C'était aussi des soupçons que l'ingénieur Singhi avait tout à l'heure. Ingénieur Mangoyo, vous estimez que la sécurisation du parc doit entrer dans la politique globale de l'environnement au niveau du gouvernement. On revient à vous, confrère Touver Ondi. Vous avez suivi encore le deuxième groupe de nos compatriotes qui reviennent sur la responsabilité de l'État, la responsabilité de la communauté internationale, mais pourquoi pas aussi que cette question soit considérée comme une question d'intérêt, parce que des fois les gens ont tendance à voir que l'intervention de l'État ou les mesures qui sont prises pour la sécurisation du parc ne suivent pas l'importance que ce parc représente et pour la RDC et pour le monde entier.
En fait, leurs avis, je suggérerais que nous ayons des Congolais également qui ont à cœur cette question, et cela nous encourage plus dans notre lutte et même dans notre travail d'éducation et de formation. Si nous regardons la loi portant, si nous restons toujours dans la loi portant conservation de la nature en RDC, une très belle loi depuis 2014, l'article 69 de cette loi, si je m'abuse, parle des mécanismes de financement des actions. J'ai suivi pas mal de nos intervenants tout à l'heure dire des questions de financement, de budget et consorts. Cet article 69 parle de quels sont les moyens qui peuvent permettre au parc de jouer son rôle de conservation de la nature et même à le développement. Là, on parle du budget de l'État, on parle du financement privé, on parle des fonds publics, même on parle des activités venant des touristes. Donc il y a moyen aujourd'hui quand même de dire le regard que nous faisons sur le plan budget de l'État, le budget accordé ou attribué à l'ICSM peut aller dans les 0,003%. Au lieu de mettre cela aussi parmi les priorités pour que ce parc puisse jouer son rôle. Cependant, avec la multiplication des contrats, des partenariats publics-privés, aujourd'hui, le Virunga constitue, pour la population qui vit au nord Kivu, l'un des endroits où il y a un bon lotissement en matière d'équipement, en matière de traitement des éco-gardes, parce que de plus en plus, on est en train de voir, même les filles, s'intéresser à ce travail des gardes-parcs. Actuellement, dans tous les recrutements, on voit de plus en plus la gente féminine venir appuyer ce travail. C'est parce qu'il y a au moins, dans le cas des partenariats publics-privés, des moyens qui sont engorgés là-dedans, autant plus que le parc est aussi du patrimoine mondial, mais aussi un site de Ramsar,
Donc tout ça, ce sont des avantages liés à cette manière de financement. En parlant de la coopération régionale, je dois quand même dire à ceux qui vivent loin que la coopération régionale est en train de faire ses preuves. Nous étions aujourd'hui ce cadre de concertation régionale entre le Rwanda, l'Ouganda et la RDC qui traversent tous le massif de Virunga, ça je dis particulièrement pour le massif de Virunga, la massif de Titi, on aurait assisté à des pires. Il y a eu des moments où le M23, de triste mémoire, a assiégé les parcs et les gardes-parcs congolais ont été protégés par les gardes-parcs rwandais et ougandais. Ce sont des cas qui doivent être soulevés comme ça pour
okay.
dire mm-hmm. la gestion transfrontalière des aires protégées actuellement est quand même en train de faire ses preuves, ni c'était l'insuffisance des moyens financiers que le gouvernement donne. Si je ne m'abuse, l'ICSN, le Parc national du Rwanda, bénéficie peut-être uniquement des salaires venant du gouvernement, mais d'autres aspects, c'est la coopération internationale qui est aussi autorisée, et même mm-hmm. du tourisme. Revenant sur les inquiétudes par rapport à la protection Pierrot, nous devons quand même dire que le décret du Premier ministre est pourtant mis en place d'un corps pour la protection des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées, qu'on appelle en sigle un corps PPN. Ce décret-là, s'il était mis en pratique avec tout ce que nous voyons dans les décrets comme dispositif de gestion des questions aussi sensibles comme les cas d'insécurité contre les éco-gardes, contre les populations riveraines, eh bien, si seulement si c'est
oui.
un corps PPN qui comprend un commandement, un état-major, un service technique, des grands services de logistique, donc tout cela, si cela a été mis en œuvre aujourd'hui, nous parlions d'un chiffre au moins réduit. On est de continuer à déployer 165 éco-gardes et tout à moins de 10 ans. C'est trop.
C'est trop. Je crois que ça, c'est nouveau peut-être que le gouvernement devait en principe se poser des questions sur ces décrets s'ils pouvaient être mis en place. Mais on va revenir à vous tout à l'heure pour conclure. On écoute les deux derniers auditeurs de cet échange. Hein. Ifaso, vous êtes en Bandaka et François Ariwara. Ifaso, merci d'être avec nous. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Voilà, on a perdu Ifaso. François, vous êtes à Ariwara. Bonjour François.
Bonjour Monsieur Gilles.
On vous écoute.
Bon, j'interviens pour ce cas. Moi, je donne la faute au ministre de l'Environnement. S'il s'agissait de parler pour les opposants, il allait parler. Mais comme il y a des gens qui tombent au champ des gardes-parcs, il y a toujours du calme. On voit aujourd'hui c'est pour les parcs de Virunga, demain ça sera les parcs de Garamba, alors tout est là. Le lendemain, ça sera le parc de Poulou en Ituri. Plusieurs fois, on voit les gens décédés sur le champ des gardes de la parc, mais il n'y a personne pour intervenir sur cette situation. C'est très malheureux.
Merci beaucoup François. Pour vous, c'est la question, c'est la responsabilité du ministre de l'Environnement. Est-ce qu'on a pu récupérer Ifaso pour le moment? Pas encore. Ok, voilà, Ifaso, merci, hein, on est avec vous, bonjour. Ifaso, vous êtes avec nous, bonjour. Bon, apparemment... on vous écoute, Ifaso. On tend vers la fin de l'émission. Vous avez suivi les uns et les autres. Hein, votre point de vue.
Oui, monsieur le journaliste, nous devons travailler une responsabilité énorme.
Là, c'est un problème. C'est un problème de liaison entre Mbandaka et le studio ici. Je crois bien, Ifaso, peut-être on pourra voir si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, Ifaso. Vous pouvez vous déplacer un tout petit peu tout en intervenant.
Je suis là, je fais le déplacement.
Non, c'est difficile, on ne saura pas bien vous suivre, Ifaso. Alors, nous revenons à vous, Touvérondi. Vous avez suivi les uns et les autres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que représente le parc en termes de recettes sur les plans touristiques? On sait qu'il y a beaucoup de cas d'insécurité. Est-ce que le parc aujourd'hui est-il à mesure de pouvoir financer, que ce soit la sécurisation, que ce soit les projets pour les populations riveraines en termes de recettes touristiques aujourd'hui?
On va quand même dire, Pierrot, qu'avec le peu d'accalmie dans la zone de Mikino, la zone de Likeno qui comprend donc le secteur sud du parc national de Virunga, qui comprend les secteurs à Volcan et les secteurs de Dori, il y a un tourisme florissant. Pas plus tard que l'année dernière, les chiffres donnés par l'ICSM ont excellé les 1 million ou même les 2 millions de dollars en net. Donc quand on dit en net, ça veut dire, après avoir fait toutes les dépenses, donner l'opportunité aux communautés de jouir de ce tourisme, il y a quand même plus d'argent qui entre pour la, pour la simple visite au Gorille. Les étrangers au Congo, comme c'est encore un tarif promotionnel, payent 400 dollars par personne et par heure. Et pour les Congolais, c'est 160 dollars pour la visite au Dori. Mais pour le volcan, c'est 300 dollars pour les étrangers et 90 dollars pour les Congolais. Donc au moins chaque jour, il y a une réservation dans cette zone-là où les gens viennent voir nos gorilles, ils viennent voir nos chimpanzés, ils viennent voir également nos volcans. Ce qui pousse, qui est un boom de développement très très avancé dans ce secteur-là. Cela ne suffit pas. Si nous devons aller du côté de la Rwenzori avec les neiges éternelles, là on ne peut pas aujourd'hui actionner le tourisme à cause de la présence des ADF et consorts. Mais il y a d'autres secteurs qui sont aussi apporteurs de bonnes visions si on sécurise totalement les parcs. Donc, sur le plan touristique, si le plan touristique, le parc lui-même, s'il est sécurisé totalement par ses corps de protection des parcs nationaux, nous espérons qu'il va vraiment jouer son rôle capital. Nous voyons le Rwanda, nous voyons l'Ouganda, nous voyons même le Kenya, qui ne vivent que des touristes à un certain niveau. Donc pour booster le budget de l'État, nous pensons qu'il est important, Pierrot, qu'on puisse placer la question de la protection de ces aires protégées qui sont au site du patrimoine mondial, même ceux qui ne le sont pas, comme une question prioritaire
oui.
Afin de permettre que nous puissions avoir des retombées liées à la présence de ces grands animaux que nous avons. Je plains souvent le Congolais qui pourront mourir un jour sans avoir été à côté d'un éléphant en face, mais c'est ce que les voir dans les documentaires. Je pourrais plaindre ce Congolais qui pourrait mourir sans avoir vu un gorille en face ou avoir
merci.
Vu un volcan Nyiragongo.
Merci tout beaucoup.
Ce sont des intérêts que nous pouvons avoir, mais la mobilisation doit être exploitée sur la sécurité de ces parcs.
Merci beaucoup, Touver Rondi. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes les coordonnateurs du réseau des journalistes chargés des questions de l'environnement. Merci d'avoir été dans cette émission avec les auditeurs des Radio Capi, à qui nous disons aussi merci. Et nous recevons dans ce studio Nico Kalambay. Nico, bonjour.
Bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs.
Et merci de retrouver le micro après une dizaine de jours.
Oui, une dizaine de jours. Je suis ravi de retrouver tous ces auditeurs qui m'ont sérieusement manqué. Le thème de ce vendredi 20 avril 2018, Pierrot. Trois organisations de défense de droits de l'homme, à savoir Association Congolaise pour l'accès de la justice à CAJ, La Voix des Sans-Voix, VSV et les Amis de Nelson Mandela, se sont retirés de la commission mixte d'enquête initiée par le gouvernement de la République démocratique du Congo sur les manifestations du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018 du comité laïque catholique de coordination pour demander l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Selon ces organisations, le gouvernement n'a pas respecté les recommandations qu'elles ont formulées. Comment commentez-vous cette actualité? Le rendez-vous est pris avec les auditeurs demain à 11h de Kinshasa. Ils peuvent se faire enregistrer une heure avant le début de l'émission en appelant le numéro habituel, donc le 081-890-4969.
Et nous rappelons à nos auditeurs que ces sujets sera tout à l'heure posté sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs.
Voilà, merci Pierrot.
Merci beaucoup Nico.
Allô? Allô? Mais ils ne répondent pas?
La mise en onde a été assurée par héritier Sidiagala. Nico Kalambay a réalisé ses magazines coordonnés par J.R. Lungembo. Pierrot et la Meji vous l'a présenté sous la supervision de Martin Seboujangwe. Parole aux auditeurs, c'est sur www.radiocapi.net, mais aussi en rediffusion à 21h, heure de Kinshasa. Merci, au revoir.